On va prendre 1 Corinthiens chapitre 2. On va lire tout le chapitre. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Alors, on poursuit ce matin donc cette traversée de l'Épître aux Corinthiens. On a vu la semaine dernière que Dieu a choisi de sauver les hommes par la prédication de la croix. Et c'est quelque chose de fou pour l'incrédule qui va rejeter ça. Mais on a vu ensemble que c'était une sagesse, c'était la puissance de Dieu pour celui qui voulait bien croire. Mais on peut dire que le salut, c'est comme la porte d'entrée, en fait. Hein. Il y a une porte, on la passe, et après on entre dans quelque chose. Quand on vient à Jésus-Christ, on entre dans une nouvelle dimension, une dimension spirituelle. Pour l'illustrer, on peut reprendre les paroles de l'aveugle-né dans les évangiles. Donc Jésus a guéri un aveugle qu'il était depuis sa naissance. C'était le verset qui était affiché. Donc, une fois guéri, l'aveugle dira « Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Et bien sûr, dans ces paroles, il y a la guérison physique que lui avait vécue, mais il y a aussi la guérison spirituelle qui nous est illustrée. « Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant mes yeux voient, mes yeux du cœur. » Et on est tous des aveugles de naissance. Tous les hommes sont aveugles de naissance parce que naturellement, quand nous naissons, nous sommes coupés de Dieu à cause de nos péchés. L'homme ne voit pas Dieu, il ne le connaît pas d'une manière qui est naturelle. Souvent, on entend dire « Oh, moi, j'ai toujours cru en Dieu. Depuis que je suis au berceau, depuis bébé, moi, j'ai toujours cru en Dieu. » Mais la réalité, c'est que l'homme naturel, il ne connaît pas Dieu. Au départ, il ne peut pas connaître Dieu, il ne le connaît pas. Alors, on peut, après, en grandissant, avoir une certaine foi quand même, hein. Si on demande aux hommes « Est-ce que vous croyez en Dieu ?», ils vont répondre « Oui ». On peut donc croire en Dieu, on peut développer une sensibilité spirituelle, ça c'est possible, avoir la conviction qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nos têtes, mais nous naissons tous sans une vraie connaissance de Dieu. Et c'est quand on comprend et qu'on accepte le message de la crucifixion qu'alors il y a un miracle qui se produit, Dieu ouvre les yeux du cœur, et là on s'écrie, mais ça y est, maintenant je vois. Je sais qu'avant j'étais aveugle, mais maintenant, ça y est, je vois clair. Je vois Dieu, je vois son esprit, je connais Jésus-Christ, j'ai une relation avec lui, il est dans mon cœur. Et c'est vraiment ça qui fait qu'on passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Maintenant, comment ce passage peut s'opérer? Comment on peut entrer dans cette dimension spirituelle? Est-ce que c'est simplement le fruit d'une compréhension intellectuelle? Est-ce que, par exemple, c'est simplement le fait de comprendre « Ah oui, Jésus est mort sur la croix », de comprendre l'idée de la substitution? Est-ce que c'est des choses que il suffit de les expliquer et puis ça y est, on capte, hein, comme on dirait aujourd'hui? Est-ce qu'il suffirait d'être un bon orateur, de bien exposer, bien développer les choses, et puis ça y est, tout le monde a compris, c'est bien clair? La réponse est bien sûr non. Si on regarde l'apôtre Paul, pour l'époque, Paul faisait partie des sages, dans le sens des puissants, des forts, hein, intellectuellement, parce qu'il était, par sa culture, par son éducation, il était parmi les personnes un peu à la pointe, hein, à la tête. Et donc, Paul pouvait expliquer les choses d'une manière naturelle, mais pourtant, eh bien, il avait bien conscience que ses points forts pouvaient devenir un obstacle à la compréhension de l'Évangile. Parce qu'il ne suffit pas de bien présenter les choses, il ne suffit pas de comprendre intellectuellement pour que les choses changent. Il faut plus qu'une connaissance intellectuelle. Et ce que j'aimerais partager ce matin par rapport à ce texte, c'est que ce qui change tout dans la vie d'une personne, c'est l'Esprit de Dieu. C'est vraiment l'Esprit de Dieu. Il faut l'intervention de l'Esprit de Dieu. J'aimerais relire les versets 6 à 9. Il est dit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses à préparer pour ceux qui l'aiment. » Et on peut arriver à une certaine connaissance de Dieu par le biais de l'intelligence et par le biais de ce que l'on voit même dans la création. La parole de Dieu le dit elle-même, puisque les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, il est dit, se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Vous regardez la création, vous regardez un flocon de neige, vous regardez les fleurs, vous regardez les animaux, vous regardez le corps humain, et vous pouvez dire, mais là, j'aperçois Dieu, j'aperçois sa perfection, sa divinité, il est comme cela. Mais cette vision des choses ne suffit pas pour rencontrer réellement Dieu. Il y a des choses que l'œil n'a point vues. Dieu n'a pas permis que nos yeux puissent le voir. Il y a des choses aussi que l'oreille n'a point entendues, ni dans le silence de la méditation, ni dans les bruits de la nature, dans un ruisseau qui coule, dans des oiseaux qui chantent, dans le vent, dans les arbres, ni par les paroles des hommes, aussi sages soient-elles, eh bien, on ne peut pas arriver à cette sagesse mystérieuse et cachée. Ce sont des choses, il dit, qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Ça n'est pas dans le cœur de l'homme. C'est absent du cœur de l'homme. Il fallait que ça vienne de l'extérieur, d'ailleurs. Ainsi, l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, ne peut pas accéder à une pleine connaissance de Dieu. C'est impossible. Il va effleurer les bords, il va peut-être apercevoir un peu de lumière comme au travers d'un rideau, mais il ne peut pas entrer et connaître véritablement cette connaissance de Dieu. Il ne voit pas distinctement. Il reste étranger aux choses de Dieu. Et quand on lit, on regarde tous les docteurs, les juifs du temps de Jésus, qui pour la plupart n'ont pas du tout connu cette sagesse divine, le plan merveilleux que Dieu avait préparé d'avance. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de le faire mourir, de faire mourir Jésus. Alors ils ont bien vu la lumière. Mais la Bible dit qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont vu qu'il y avait un peu de lumière derrière la personne de Christ. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont rejeté cette lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais parmi eux, quelques-uns, dans la masse de tous ces gens, quelques-uns voyaient eux aussi la lumière qui brillait derrière la personne de Jésus-Christ. Et cette lumière ne leur a pas fait peur. Ils ont voulu s'approcher, comme Nicodème. Il a voulu s'approcher. Il a dit, mais Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Je vois la lumière, mais je ne vois pas distinctement. Seigneur, j'ai besoin que tu m'éclaires. Et Paul dit que Dieu a préparé ces choses pour ceux qui l'aiment, ceux qui veulent de lui, ceux qui sont prêts à être mis à nu devant lui, ceux qui se courbent devant sa vérité. Et ce qui change tout, c'est donc l'Esprit de Dieu. Regardez versets 10 et 11 de notre chapitre. Il est écrit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui révèle les choses d'en haut. Et nous croyons à la révélation divine. Dieu a posé son Esprit sur certains hommes pour leur révéler des vérités célestes, des vérités éternelles. Paul dit en Galates 1, versets 11 et 12, je vais vous le lire si vous ne voulez pas le prendre, il dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Et donc, ça descendait d'en haut, et c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il a reçu cette révélation et qu'il s'est mis à parler de la part de Dieu. Et l'Esprit reposait sur les hommes, tout en respectant leur âme, tout en respectant ce qu'ils étaient, leurs sentiments, leur volonté, mais il les remplissait et leur révélait ces mystères, les poussant à écrire, afin qu'on puisse avoir la parole de Dieu que nous avons aujourd'hui. Lorsque Paul dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit », c'est intéressant parce que le terme du verbe grec est « alaoriste » et ça signifie que la révélation a eu lieu à un moment défini dans le passé. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelle révélation. Il n'y a pas de nouveau prophète. Il n'y a pas un dernier prophète. Non, ça a été révélé par l'Esprit dans le passé. C'est terminé. Mais lorsqu'il est dit « l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu », là le temps est au présent. Et ça souligne l'idée d'une activité qui est permanente, qui est constante. De la même manière que nous, l'esprit de l'homme, notre esprit, eh bien nous pouvons nous sonder, nous scruter, chercher en nous, essayer de nous connaître à chaque instant. Et on se connaît soi-même, dans une certaine mesure. De la même manière, l'esprit de Dieu, lui, sonde les profondeurs de Dieu d'une manière permanente. Il est dans le Fils, il est dans le Père, et il est lui-même Dieu. Alors, seul l'Esprit de Dieu pouvait révéler tout ce qui concerne Dieu, c'est-à-dire toutes ses vertus, tout son caractère, tous ses attributs, ses desseins, ses plans, tout son amour, toute sa justice, toute sa sainteté, tout cela, il nous le révèle dans les Écritures. C'est la révélation écrite de Dieu. Paul, notamment, a reçu cette révélation de l'Esprit. Donc, il reçoit la révélation de l'Esprit, mais ensuite, il fallait qu'il communique cette révélation. Et pour la communiquer, il ne pouvait le faire, encore une fois, que par l'Esprit. Et il ne suffit pas de comprendre ou de recevoir les choses, mais ensuite, il faut les transmettre. Et la transmission, elle ne peut se faire que par l'Esprit. À ce sujet, on peut relire les versets 1 à 5 de notre chapitre. Regardez ce qu'il dit. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et on peut dire que Paul était tout à fait capable d'exposer le message avec pertinence, avec exactitude. Il avait compris et humainement, il pouvait expliquer les choses. Et il n'était pas du genre à trembler pour prendre la parole devant un auditoire. Il était plein de force humaine. Mais pourtant, il dit qu'il s'est présenté aux Corinthiens dans un état de faiblesse, de crainte et même de tremblement. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait, il voulait pas user de sa sagesse et de son intelligence, sa capacité oratoire pour présenter les choses de Dieu. Mais il voulait que ce soit Christ qui parle et qui communique au travers de lui ses vérités. Essayer de convaincre par sa propre sagesse, Paul savait le faire. Mais il voulait s'attendre à Dieu pour que Dieu s'occupe de tout. Il voulait se reposer dans la faiblesse et dire « Seigneur, occupe-toi, parle toi-même et enseigne ce que tu veux enseigner. » Et ainsi, il dit, sa parole, sa prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Dieu se saisissait de l'homme Paul et l'esprit parlait au travers de lui. Et on peut dire ce dont les Corinthiens avaient besoin. Pourquoi ? Parce que ce qui suscite la foi dans notre cœur, c'est justement quand on entend Dieu nous parler. Quand on entend l'Esprit communiquer ses vérités. Eh bien, c'est ça qui nous rapproche de Dieu et qui nous aide à notre foi, à les stimuler, à les vivifier. On est nourri en fait, nourri par Dieu lui-même. Et Paul dit qu'il s'est efforcé de laisser toujours la place au Seigneur afin que leur foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, non sur des raisonnements, mais sur la puissance de l'Esprit de Dieu. Et on voit donc que la révélation, elle ne peut se transmettre, encore une fois, que par l'Esprit. Paul disait, donc je vous prends un autre passage, je vous le cite, il dit « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » Et il ajoute « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Et la force de Dieu ici, en grec, c'est l'énergeia, donc l'énergie en fait de Dieu. C'est quoi ? C'est le Saint-Esprit. En fait, c'était le Saint-Esprit qui parlait, qui faisait qu'il écrivait, c'était par écrit ou par oral, il enseignait, mais aussi il écrivait ses lettres inspirées par Dieu. Et on peut dire que les mots étaient importants. Chaque mot, regardez le verset 13, 1 Corinthiens 2, verset 13, il dit « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Ça veut dire que l'Esprit de Dieu choisissait les mots à employer, avec le vocabulaire propre à l'apôtre Paul, parce qu'il ne viole pas la personnalité. Il utilisait le potentiel de l'apôtre Paul pour communiquer ses vérités en choisissant les mots. On appelle ça l'inspiration verbale des Écritures. On croit que la Bible est inspirée dans les mots. Dieu a choisi les termes afin qu'on puisse recevoir les vérités de Dieu. Et on peut dire que c'est ce qui fait toute la différence entre ce qui est mort et ce qui est vivant. La parole de Dieu est vivante. C'est ce qui fait la différence entre une parole d'homme et la parole de Dieu. C'est ce qui fait la différence entre un bouquin et la sainte parole de Dieu. Elle est inspirée par Dieu. Quand vous avez lu un livre, vous l'avez lu. Mais quand vous avez lu la Bible une fois, vous n'avez pas lu grand-chose encore. Parce que la Bible, elle est pleine de richesses, de trésors. C'est insoupçonnable. On peut relire 15 fois le même texte et le voir d'une manière différente et voir que Dieu nous révèle des choses que nous n'avions pas vues jusqu'à présent. Encore faut-il donc les voir, les recevoir et les comprendre. Parce que, donc, on a vu ensemble, l'esprit révèle, l'esprit inspire, l'esprit communique même la parole de Dieu avec puissance, mais ça ne suffit pas encore pour comprendre. C'est pour ça, Jésus a dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. » Et pour reprendre cet exemple des Juifs religieux du temps du Seigneur, ils avaient l'Ancien Testament révélé et inspiré de Dieu. Ils avaient les Écritures. Ils les lisaient. Certains les lisaient sans cesse, les recopiaient, mais ils ne voyaient pas Jésus-Christ. Ils passaient complètement à côté de Jésus-Christ. Et on peut lire 100 fois la Bible sans rien y comprendre. Comme dit le prophète dans l'Ancien Testament, la Bible peut rester comme un livre cacheté, fermé. On lit les mots, mais on n'en comprend pas le sens. Ça peut rester comme ça, à moins que l'Esprit de Dieu vienne illuminer la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'illumination. Et il faut l'Esprit de Dieu pour recevoir les paroles de Dieu. Regardez verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 12. « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Donc, il faut recevoir l'Esprit de Dieu pour connaître tout ce que Dieu nous a donné dans sa bonté. Ça ne veut pas dire que Dieu ne puisse pas agir sur une personne et lui faire comprendre certaines choses qui le concernent. L'Esprit, notamment, on le lit, il convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, il éclaire les hommes, il les éclaire sur eux-mêmes. Il les éclaire d'abord pour leur rappeler qu'ils sont des pécheurs. L'homme oublie facilement qu'il est un pécheur. Mais l'Esprit lui rappelle. L'homme se dit, j'ai pas tué, j'ai pas volé, je suis une bonne personne. Mais l'Esprit lui montre, non, tu es un pécheur. L'Esprit lui montre aussi la justice de Dieu, qu'il y a une justice divine qui va frapper. Elle frappe à la mort, dernier recours, mais elle peut aussi frapper sur la terre. Il y a une justice divine. Et il y a finalement un jugement quand on passe de l'autre côté. L'Esprit donc nous aide à comprendre ces choses. Mais l'Esprit peut aussi nous éclairer. Il peut nous faire goûter le don céleste, comme dit l'Épître aux Hébreux. Il s'approche de nous, il nous parle, il parle à notre cœur. Et on sait, on entend la voix de Dieu. Mais ça doit engendrer la foi en Jésus-Christ crucifié. Il faut accepter le message de l'Évangile. Jésus est mort pour moi. Se courber devant le Seigneur. Si on ne le fait pas, alors les prémices de cette illumination s'arrêtent. Et le Seigneur se retire. Il faut accepter Jésus-Christ. C'est impératif. Il faut recevoir l'Esprit pour connaître les choses que Dieu a en réserve pour ses enfants. La Bible emploie différentes expressions pour finalement parler toujours de cette même chose, le fait de recevoir l'Esprit dans notre cœur. Jésus va par exemple dire, il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit ça donc à Nicodème. Et la nouvelle naissance, eh bien, c'est la réception du Saint-Esprit qui entre, il est l'agent qui va rétablir la communion avec Dieu. Paul dira au geôlier, donc dans la prison, une autre expression, il dira, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est-à-dire tu vas être mis à part, tu seras en sécurité. Tu seras sauvé, tu recevras en fait le Saint-Esprit. C'est toujours la même chose. Il est question également d'être scellé du Saint-Esprit. C'est la même chose, recevoir le Saint-Esprit. Ou bien il est question de passer des ténèbres à la lumière, mais encore possible que par la réception du Saint-Esprit. J'étais aveugle et maintenant je vois. On passe de l'aveuglement à une vision claire de la personne de Dieu, de la personne de Jésus-Christ. Ou bien à chaque fois que la Bible parle d'avoir la vie éternelle, c'est la même chose. Hein? Avoir la vie éternelle, eh bien, on le reçoit quand on reçoit l'Esprit. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. C'est-à-dire celui qui a l'Esprit hein, du Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas l'Esprit du Fils, il n'a pas la vie. Ou bien encore, celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Toujours la même chose. À chaque fois, on parle du même instant pendant lequel, eh bien, l'Esprit entre et vient régénérer le cœur de la personne. Et il y a un avant la réception de l'Esprit et un après la réception de l'Esprit. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, il est devenu une nouvelle créature, dit 2 Corinthiens. Et dire par exemple que on est chrétien dès la naissance, et c'est un non-sens par rapport à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Personne ne naît enfant de Dieu, il faut le devenir au cours de sa vie. Au contraire, la Bible dit que nous naissons hommes naturels. C'est-à-dire, homme conduit par notre âme et par notre corps. La Bible enseigne qu'on est plus qu'une âme et plus qu'un corps, puisque Dieu nous a donné un esprit, il nous a fait à son image, Dieu est esprit, et Dieu nous a donné un esprit pour avoir justement une relation, une communion avec lui. Il y a une dimension spirituelle en nous, mais l'homme est coupé de Dieu du fait de ses péchés. La dimension spirituelle, eh bien, est fermée, en tout cas en ce qui concerne Dieu. Et l'homme naturel est surtout mu par ses instincts, par ses passions, par ses sentiments, par ses émotions qui sont fluctuantes, par la chair ou par l'intelligence, l'intellect. Et c'est pour ça aussi que l'homme se conduit parfois comme un animal. Il se dit, mais ce n'est pas possible, il est comme une bête. Mais oui, mais parce qu'il est conduit par l'âme, en fait. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce qui est traduit par « homme naturel » dans la Bible second est traduit dans la Bible Darby par « homme animal », l'homme animal. L'esprit de l'homme est naturellement, dès la naissance, mort. C'est-à-dire, la mort, c'est la séparation. Mort, il est séparé de Dieu d'une manière naturelle. À cause de son péché, l'homme naturel ne peut pas avoir communion avec Dieu. Il y a une coupure, il y a une cassure, il y a un mur entre lui et Dieu. Mais celui qui croit au Fils, celui qui reçoit le message du Fils, qui saisit l'œuvre du Fils, qui croit que Jésus vraiment est mort pour lui, alors eh bien, il reçoit l'Esprit, il a la vie éternelle. Et à ce moment-là, il entre dans cette communion spirituelle avec Dieu. Et c'est ça, naître de nouveau. Dieu rétablit le contact entre l'esprit humain et l'esprit divin. Regardez 1 Corinthiens 2, 14 à 16. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or, nous avons la pensée de Christ. Et l'homme animal, l'homme naturel, ne peut pas entrer en communion avec Dieu. C'est pas possible. Il ne peut pas entrer pleinement dans les choses de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'en a pas la capacité. Ça ne signifie pas que l'homme naturel ne puisse pas vivre des expériences spirituelles. Il a un esprit coupé de Dieu. Mais il peut vivre par son esprit des expériences spirituelles. C'est quand même possible. Quand un sorcier va invoquer des mauvais esprits, il va manifester là quelque chose de spirituel. Il va rentrer dans un domaine spirituel, mais pas dans une relation avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu, avec Jésus-Christ. Quand quelqu'un s'ouvre au spirituel dans la méditation, bien là, il vit une expérience spirituelle. Je connais quelqu'un qui est entré dans une secte qui est invité à s'ouvrir comme ça, faire de la méditation et à s'ouvrir sur l'extérieur, s'ouvrir sur l'esprit qui est à l'extérieur. Et elle a fini possédée. Et elle a dû trouver Jésus-Christ, ou Jésus-Christ l'a trouvé pour avoir la délivrance. Alors là, l'Esprit de Christ est entré en elle. Elle était libérée. Mais je la connais bien. Donc, on peut vivre des expériences spirituelles. Il y a plein de chemins. Mais il n'y a qu'un seul chemin qui est véritable, Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi, c'est exclusif. Tous les autres chemins vous mènent dans l'erreur, vous mènent dans les ténèbres. On peut vivre des expériences spirituelles, mais on n'entre pas par ces expériences dans la compréhension de l'œuvre de Jésus-Christ, de sa mort sur la croix. Et on n'entre pas dans les trésors que Dieu réserve à ses enfants. C'est pour ça qu'on trouve parfois des personnes qui se disent chrétiennes et qui arrivent à mélanger l'occultisme et le christianisme. Et on se dit, mais comment c'est possible? Là, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on a notre sœur qui est missionnaire là-bas, mais c'est incroyable comme ils arrivent à mélanger du catholicisme avec de la superstition et la peur des esprits de la rivière, et ça leur va bien, on mélange tout et il n'y a pas de problème. Ou bien quand on mélange toute une philosophie orientale avec le christianisme, l'esprit christique, hop, il n'y a pas de problème. Parce qu'on ne voit pas la différence en fait, hein. Ils sont dans les ténèbres, donc c'est du pareil au même. C'est du pareil au même. Mais l'homme spirituel, celui qui vient à Christ, qui reçoit l'Esprit, pour celui-là, eh bien, il est dit, l'Esprit lui permet de juger de tout et de discerner. Et il voit, il dit, non, ça c'est les ténèbres, c'est pas Christ. C'est pas Christ. Il est dit, il juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Et il ne faut pas comprendre ici que l'homme spirituel, il est au-dessus de tous et puis il peut condamner à loisir tout le monde. Ce n'est pas ça l'idée. Le jugement dont il est parlé ici, c'est plutôt l'idée du discernement. L'homme spirituel discerne par la grâce et par la communion. S'il perd sa communion, il ne discerne plus rien du tout. Mais par la grâce et par la communion avec l'Esprit de Christ, il voit juste. Il sait, il voit. Et c'est une grâce, ça ne vient pas de lui. L'homme spirituel juge de tout parce qu'il est éclairé par l'Esprit. Il discerne vérité, erreur. Mes brebis entendent ma voix et elles savent reconnaître la voix de l'ennemi. Ils disent, ça, c'est pas la bonne voix, ça. Mais la voix du Seigneur, ah oui, oh, c'est la bonne voix. Et on a envie de la suivre. C'est la voix de Jésus. Il juge de tout. Il connaît par expérience la différence. C'est important ça. Il connaît par expérience la différence entre l'homme naturel et l'homme spirituel, puisqu'il était homme naturel. Et par la grâce et par le salut, par la foi en Jésus, il est devenu homme spirituel. Et il reçoit les choses qui viennent de Dieu, il les comprend, il reçoit l'illumination de l'Esprit de Dieu. L'homme naturel va buter contre les textes bibliques, il va buter contre la révélation écrite, il va buter contre une inspiration plénière, verbale. Il va trouver des pierres d'achoppement dans les Écritures. Il va même les tordre, il va les comprendre de travers, ou il va rester en surface, il ne va pas en voir toute la portée, toute la puissance, toute la profondeur. L'homme naturel doute de la Bible. L'homme spirituel accepte la révélation. Paul a dit une parole intéressante en 1 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 13. 1 Thessaloniciens 2 verset 13, il dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Et on voit ici, l'homme spirituel discerne qu'il y a la parole d'homme, des hommes, et puis il y a la parole de Dieu. Et donc, il accepte la révélation, il accepte l'inspiration plénière et verbale des Écritures. Et il est dit, ici, si l'homme spirituel n'est jugé par personne, c'est qu'il peut sonder et voir la différence entre vérité et erreur. Il sait, il entend, il dit, ça sonne faux. Il y a quelque chose qui sonne faux là, parce que l'Esprit, eh bien, le met en garde. Et donc, l'homme spirituel sait que le monde est coupé en deux. Il est coupé en deux, il y a ceux qui ont cru et ceux qui ne croient pas encore, ou qui ne croient pas encore comme il faut, de la bonne manière. Tandis que l'homme naturel est étranger à cette connaissance, il ne peut sonder l'homme qui a reçu l'Esprit. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Dieu donne le discernement à ses enfants. Il éclaire leur intelligence. Il renouvelle leur pensée. Il leur fait une grâce, la grâce de pouvoir voir juste, de pouvoir voir clair et nettement. Et encore une fois, on ne possède pas ça. On l'a par grâce, mais on peut le perdre. Et tout dépend de la vie avec le Seigneur, de l'obéissance, de la relation, de la communion avec le Seigneur. Avec cette description de l'homme spirituel, je me dis, mais personne ne voudrait rester homme naturel. J'espère, hein? Personne d'entre vous, hein? On a envie, on aspire, on se dit, mais moi je veux entrer dans cette connaissance des choses de Dieu, je veux devenir un homme, une femme spirituelle. Ou on se dit déjà, oh, moi je suis un homme spirituel, je connais. Hein? Ah, danger, warning. Mais ça ne dépend pas de celui qui veut et de celui qui court, comme dit la parole de Dieu. Ce qui fait toute la différence, c'est encore une fois recevoir l'Esprit de Dieu. Et le fait de la place que nous lui accordons dans notre vie, dans notre cœur. Romains 8, verset 9. Il est dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et c'est par cette expérience que l'on passe de l'homme naturel à l'homme spirituel ayant reçu l'Esprit de Dieu. C'est intéressant ce verset. Ce n'est pas quelque chose que l'on réfléchit, ce n'est pas quelque chose que l'on on construit. Hein. Des fois, les personnes se disent « je suis sur un chemin spirituel, je sens que je m'approche, je suis un peu plus près, là bientôt je vais y arriver ». Mais ce n'est pas quelque chose qu'on construit. Ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut travailler. Inutile de se mettre dans la position du lotus et se dire « il faut que je reçoive l'Esprit, il faut que je reçoive l'Esprit ». Non, non, ce n'est pas comme ça. Parce que la clé pour recevoir l'Esprit de Dieu, elle ne se trouve pas dans la recherche du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça la clé. Si on se focalise sur l'Esprit, on fait fausse route. Parce que les Écritures ne nous invitent pas. Dieu nous révèle, nous explique qui est l'Esprit, il nous montre ce que fait l'Esprit, mais il ne nous invite pas à focaliser notre attention sur l'Esprit. Plus on se focalise sur lui, et plus on s'éloigne finalement. Mais la Bible met clairement l'accent sur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le centre. Ce que Dieu dit, c'est « crois au Fils, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé ». Là, tu seras sauvé. Il n'est jamais dit de croire au Saint-Esprit dans les Écritures. Il n'est jamais dit même d'accorder des prières au Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas en adresser une, je ne pense pas. Hein. Il est Dieu. Hein. Mais on ne voit pas ça dans l'Écriture d'une manière claire où il faudrait bien prier. Il n'est pas dit qu'il faut prier le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Non. On ne prie pas par le Saint-Esprit non plus. L'Esprit ne s'est pas incarné pour mourir pour nous, mais c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le salut de notre vie et c'est en lui qu'il faut croire. L'Esprit, lui, se tient en retrait et il ne fait qu'accomplir l'œuvre du Père et du Fils. Il l'accomplit en nous. C'est Jésus-Christ qui est venu mourir pour nous. C'est lui qui s'est incarné, c'est lui qui a souffert, c'est lui qui a versé son sang. Et Dieu nous dit de nous focaliser sur lui seul, de croire en lui, de prier en son nom, de nous nourrir de lui, de le suivre, de l'aimer lui. Et si on accepte Christ, si on aime Christ, si on se donne à Christ, alors, eh bien, on vivra cette expérience et on entrera dans les richesses que Dieu a en réserve pour nous. Alors, on ne vivra plus en homme naturel, mais en homme spirituel. Si on est fidèle au Seigneur, et on verra la suite, hein, il est possible aussi de vivre en homme charnel. Donc ça sera pour la semaine prochaine.